Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a commencé une nouvelle série qui s'appelle « Sans filtre ». D'accord ? Et le sous-titre, c'est « Au Christ, nous sommes libres d'en parler ». D'accord ? Pourquoi parler de ça, des choses sans filtre ? Parce que, au lieu de dire « tabou », on dit « sans filtre ». Voilà. Parce que parfois, le mot « tabou », ça fait peur, ou ça fait « non, je ne veux pas parler de ça ». Et justement, la Bible, c'est tout le contraire. C'est de pouvoir parler, parce que nous sommes libres de le faire en Christ. On a un texte qui est justement pour résumer notre série. Il dit « La liberté que j'ai en Christ me permet d'être vulnérable sans être jugé ni condamné. L'Esprit de Dieu m'encourage à vivre sans filtre et à lui être redevable dans ma vie quotidienne sous sa grâce et avec le but d'honorer Dieu. » Encore une fois, ceci, on va le lire chaque fois, chaque dimanche, qu'on parle de cette série, pour qu'on puisse comprendre qu'en Christ, je suis libre de parler. Je suis libre de parler. Pourquoi? Parce que Christ me donne cette liberté et on va aller vers là-bas. Une des causes, avant de pouvoir dévoiler le titre et pour cette semaine, une des causes fondamentales de vivre sans filtre, une des causes fondamentales de quand on vit avec des filtres, c'est le silence. Et ce silence est l'ennemi numéro un de la vie chrétienne épanouie. Écoutez bien pourquoi je dis la différence. Le silence est bon. Parfois, dit la Bible nous dit dans le psaume, fais silence devant l'Éternel. Correct. Mais pour vivre une vie chrétienne épanouie, le silence est un grand ennemi. Au contraire de ce que l'on croit, la vie est meilleure quand nous sommes complètement transparents avec Dieu, avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. La vérité produit un sentiment de satisfaction en sachant qu'il n'a rien à cacher. La semaine dernière, on avait commencé cette série avec un verset et spécifique pour notre série. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Même si nous faisons silence, l'Éternel nous voit, nous regarde et il sait tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Mais comment comprendre ce qui se passe dans ma vie si je ne parle pas? Comment pouvoir aider si je n'ose pas en parler? Dieu voit toutes les choses, rien ne se cache de sa présence. Et il ne s'encourage pas sa grâce à quoi ? À briser le silence. Brise le silence. La première chose pour être sans filtre, c'est briser le silence. Pourquoi ? Parce que parfois on croit qu'on est tout seul dans notre lutte. Et Dieu voulant, les semaines suivantes, lorsqu'on verra, et lorsqu'on parlera par rapport au suicide, par rapport au côté homosexuel, tout ce qui est cela, aux addictions dans toute sa panoplie, et au divorce, des choses comme ça que parfois, on ne parle pas d'ici, on le parle à l'extérieur, mais pas ici. Peut-être qu'on aura des gens qui vont venir devant partager leur témoignage, pour voir que, et comment eux, Dieu les a aidés dans leur démarche, pour voir qu'on n'est pas seul dans cette monde. Déjà, Dieu est là, il le sait. Mais on a besoin d'un référent aussi auquel on puisse parler. Alors, comment briser le silence? Par où ça commence? Ça commence par Dieu. Dieu vient à ta rencontre. Pourquoi? Parce que quand on fait silence, souvent, on se met à côté. Souvent, je crois que pour qu'il puisse entendre derrière. Souvent, et on s'isole. Quand on s'isole, Dieu vient nous rencontrer. La parole de Dieu nous était laissée pour nous accompagner tout au long de notre vie. Elle nous encourage à travers des différents témoignages des hommes et des femmes qui ont eu cette confiance à force de force en Dieu, mais aussi en parler. Je crois qu'un des plus grands personnages, même si tous les personnages bibliques sont forts, mais un des plus personnages qu'on apprenne à l'école des dimanches ou parce qu'ils ont fait de grandes choses. On parle de Moïse. Et Moïse, c'était quelqu'un que, et avec il a, sa vie a été chamboulée depuis le début. Pourquoi? Parce que il voulait, le roi, le pharaon, il a dit tous les hommes, tous les bébés hommes, il fallait qu'ils meurent. Sa maman, qu'elle fait, il le cache. Et après, il le met dans le fleuve et il laisse sa sœur qui l'accompagne pour voir ce qui se passe. Une princesse, une fille de Pharaon, le voit, il le prend et toute sa vie change. Et toute sa vie change. Et on peut en parler de Moïse des heures et des heures et des heures. Et Moïse arrive à un point de sa vie où il dit, je sais que je suis juif, je sais d'où je viens. Dans ce cas-là, je vais faire des choses que je crois c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que c'est long, mais il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer un Égyptien. Il va le cacher. Il dit quoi? Personne ne m'a vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont vu. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire, oui, je vais assumer ma responsabilité, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Alors, la parole de Dieu nous dit que il se réfugie dans le désert pour combien de temps? 40 ans. Dans le désert, il y a pas, bon, c'est pas qu'il n'y a personne, mais c'était dans un coin où il n'y avait personne qu'il connaissait. Et c'est là qu'il va trouver sa future femme et son beau-père Jéthro. Mais c'est là aussi que Dieu va venir à sa rencontre. Vous vous souvenez, en Exode chapitre 3, où il était en train de pêtre, c'est comme ça en français, voilà. Oh, waouh, je me sens bien. Je te trouve des mots compliqués. Pardon?
De faire pêtre.
Merci. Il est en train de faire. Merci. L'orgueil baisse, voilà. Donc, il est en train de faire pêtre ses troupeaux, et d'un coup, il voit un buisson en train de s'embrasser, mais qu'il ne se consumait pas. Je pense que nous tous, on fait la même chose, de dire qu'est-ce qui se passe. Donc, il s'approche de cette chose impressionnante. Il dit quoi? Moïse faisait paître, voilà, le troupeau de Jéthro, son beau-père, et sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, donc la deuxième personne de la Trinité, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir qu'est-ce que cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consomme point. L'Éternel vit et qu'il se retournait pour voir. Et Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse répondit, mais voici, Dieu vient à la rencontre de Moïse. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Devant lui pour dire, oh, Moïse, je suis là. Dieu vient à sa rencontre. Mais qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Il y a des choses spécifiques qui se passent dans cette rencontre. Verset suivant, il dit, et Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. Verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse savait tout ça. Moïse se cache quoi? Se cachait le visage. Car il craignait, dans des autres versets, il avait peur de regarder qui? Dieu. La première chose, quand Dieu vient à notre rencontre, notre première réaction, quand on a quelque chose caché, c'est quoi dire? Comme un enfant, pour ceux qui nous avons la grâce d'être papa, quand un enfant sait qu'il a fait quelque chose de mal, est-ce qu'il te regarde directement aux yeux? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Parce qu'il a honte. Briser le silence, c'est de dire, c'est d'écouter la voix de Dieu et venir tel que je suis. Il y a des enseignes qui disent, viens tel que tu es. Dieu dit, viens tel que tu es. C'est pas grave. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? c'est pas simplement qu'il avait peur de regarder Dieu, mais Dieu lui parle quand même. Mais aussi, il avait manque de confiance. Qui suis-je? Regarde-moi, ça fait 40 ans que je ne suis plus en Égypte. J'ai perdu un peu le langage de comment parler l'Égyptien. J'ai plus une relation avec le Pharaon comme j'avais avant. J'ai plus le contact avec le peuple d'Israël. On va le voir tout à l'heure. Mais Dieu lui dit quoi? Dieu dit, je serai avec toi. Briser le silence devant Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je regarde Dieu parce que Dieu me parle. Ça veut dire, si je manque de confiance, Dieu me dit, je vais être avec toi jusqu'au bout. Et si on saute au chapitre 4, je vous prie de le lire après chez vous, vous voyez que l'histoire est impressionnante. Chapitre 4, on voit Moïse encore qui met des excuses. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne me coûteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne te voit pas. Ils vont me juger. T'es fou, Moïse. T'es fou. Tu vas ouvrir la bouche et ils vont dire, bah, c'est qui t'a parlé? Pourquoi elle dit ça? Parce que juste avant de partir, Moïse, quand il avait tué cet Égyptien, un homme israélien lui dit, mais qui es-tu? Qui te crois-tu? Lisez l'histoire et vous allez voir. Donc Moïse sautait avec ça, il a gardé ça dans le cœur. Il dit, je suis personne. Mais l'Éternel dit quoi? L'Éternel lui dit, qu'il y a dans ta main? Il répondit, une verge, un bâton. Jette-le par terre et jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et ceci là par le cœur, par la queue. Et l'Éternel, Dieu, tu es un peu, comment je vais faire ça? Comment je vais prendre un serpent par la queue? Il va me mordre. L'Éternel dit, il faut le faire. Il étendit la main, il fait ci et le serpent redevint une verge dans sa main. Et c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et en plus, il y a deux autres choses qu'il va faire plus tard, vous pouvez continuer à le lire. L'Éternel sera avec toi. Personne ne va te juger. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'envoie. Les gens te jugent parce qu'ils voient quelque chose de devant. Ici, Dieu fait comprendre à Moïse qu'en se laissant guider, il va délivrer Israël. Écoutez ceci, je préfère être vulnérable devant Dieu et dépendre de son aide que de faire semblant d'être autosuffisante et finalement réaliser par la force que mes ressources n'étaient pas suffisantes. La Bible dit en Matthieu chapitre 5, verset 3, Dieu bénit ceux qui sont pauvres en esprit et qui réalisent qu'ils ont besoin de lui, car le royaume des cieux leur appartient. Les pauvres en esprit ne sont pas des gens qui souffrent d'une faible estime de soi. Au contraire, ce sont ceux qui ont été libérés de l'arrogance spirituelle, de se croire meilleurs que quiconque. Mais sont ceux aussi qui se reconnaissent comme dépendants de Dieu. Dieu vient à la rencontre de Moïse. Dieu vient. Parce que Moïse était caché. Mais il vient aussi à ta rencontre. À tes peurs. À tes peurs en pluriel. Ou à ta peur. À ta manque de confiance. Ou même à ton manque d'espoir en lui. Il vient de dire, je fais le travail. Je avec J-E majuscule. Si vous lisez l'Exode chapitre 4, il y a plusieurs fois qu'il dit je, l'Éternel. Je. Et c'est le seul je sans être orgueilleux. Sans se mettre en avant d'une façon orgueilleuse. Il dit, je vais le faire. Dieu dit, brise le silence parce que je viens à ta rencontre. Viens tel que tu es, n'importe. Et la façon d'être sans filtre, c'est de dire, me voici. Et avant de passer au deuxième point, vous savez, Dieu vient à notre rencontre en Jésus. Parce qu'on ne pouvait pas arriver vers lui. Donc, Jésus vient à notre rencontre dans notre misère, dans notre péché. Pour faire quoi? Pour nous donner science. Et ça, c'est exceptionnel. Le Créateur de l'univers, tu viens cher. Pour faire quoi? Pour venir à notre rencontre. Dieu veut nous rencontrer. Pour briser le silence. Et ce qui est impressionnant, c'est que Dieu aussi veut te libérer. Dieu veut te libérer. Les histoires bibliques sont fascinantes car elles nous montrent, ils nous apprennent à recentrer les choses en Christ, en Dieu. Pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, il y a une histoire belle d'une femme qui s'appelle Esther. Esther, encore une fois, comme Moïse, ses parents n'étaient pas dans l'histoire, donc on croit qu'ils étaient morts. Elle est élevée par son oncle, Mardoché. Et cette fille, on croit qu'elle était belle parce qu'elle était prise en tant que future épouse du roi. Parce que le roi, il avait marre de sa femme. Donc, Basti. Et il dit, bon, je veux une autre femme, donc allez chercher toutes les filles les plus belles, ramenez-la. Et après un certain temps qui sont passés au palais pour se préparer pour être roi, elles deviennent finalement reine, ou la femme du roi. Et comme femme de roi, son oncle, il avait une bonne relation avec son oncle, et il y a dans ce moment un homme qui s'appelle Naaman, c'est bien le nom en français, Naaman, qui fait quoi? Qui haït les juifs. De toute façon, qui voulait faire un génocide dans ce moment-là des juifs. Il les haïssait. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais vous pouvez le lire. L'anniversaire, c'est courte, donc vous pouvez le lire. Et Esther, il vient dans un moment, il se trouve dans un impasse. Il doit briser le silence parce que le roi, il ne savait pas qu'elle était juive. Donc, elle devait briser le silence pour protéger son peuple. Alors, qu'il se passe? Esther dit, Mardoché, son oncle, fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance seraient de notre part pour les Juifs. Et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui qui était parvenu à la royauté. Toi, peut-être tu es tranquille là-bas. Mais peut-être Dieu va ramener de notre part. Mais maintenant que tu as une position devant le roi pour faire quelque chose de différent, il faut le faire. Mais qu'est-ce que je fais? Et là, on voit là, et quand elle veut briser le silence, Esther dit à Mardoché, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, quoi? J'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Dieu voulait libérer le peuple d'Israël par la main d'Esther, et il l'a fait. Super, parce que je vois, continue, ça ne s'arrête pas là. Mais il demandait quoi? Déjeuner, de se poser, de briser le silence, mais comment? En étant en contact avec Dieu, d'une façon plus profonde. C'est quoi le jeûne? C'est pas les jeûnes, c'est les jeûnes. C'est quoi jeûner? Jeûner, c'est de se priver de certaines choses, pas simplement la nourriture, pour dédier ce temps à la prière, pour dédier ce temps à chercher Dieu. Pourquoi le nom de Dieu n'était pas marqué dans cela? Dans tout le livre de Esther, vous ne verrez pas le mot Dieu ou l'Éternel. Mais il est derrière toute la scène, en train de guider tout ça. Donc Esther, en tant que juif, Mardoché, en tant que juif, il croyait à l'Éternel, il croyait à ce que Dieu
de déjeuner à qui? À Dieu. Ils cherchaient la volonté de Dieu, ils ont pris du temps. Pourquoi? Pour la libération. Donc parfois, dans la libération, il faut un temps spécifique avec Dieu. Alors, Dieu a libéré le peuple d'Israël du génocide. Il faut briser le silence. Écoutez ce que le psaume 32 dit. De David, cantique. Heureux celui qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans le suivi duquel il n'a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. On parle d'être en silence. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main sapait son test sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Comme celle de l'été. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. C'était jusqu'au verset 5. Non, verset 7. Bon. Quand ainsi tout ton pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendront nullement. Tu es une assise pour moi, tu m'es hanté de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Qu'est-ce qui se passe avec ici? David, il dit, je viens devant toi pour être libéré, je dois confesser mon péché. Je dois briser le silence. Pas simplement le silence. Parce qu'il y a un silence interne. Ce silence, Dieu veut que ce soit brisé. Tu vas confesser mes péchés et tu vas me délivrer. C'est quoi? Tu es une assise pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de quoi? Des champs de délivrance. De délivrance. Alors, le Seigneur nous a laissé la prière et les jeûnes comme des instruments pour le chercher et venir devant ses bras quand on a un souci. Une crainte, une peur. Esther l'a fait. David, le roi David l'a fait. Et beaucoup d'autres, nous le faisons. Quelqu'un a dit que pour bien communiquer, il faut ouvrir la bouche. Parce que comment connaître quelqu'un si je ne parle pas? Ou comment je peux attendre que quelqu'un me connaisse si je ne parle pas? Ah non, mais tu vois, on a le témoignage. Jacques le dit, il faut être un bon témoin. Bien sûr, mes actions montrent ce que je crois. Mais ce n'est pas que les actions. Romains chapitre 10 nous parle de quoi? Comment ils vont comprendre si quelqu'un ne parle? Comment? Dieu nous a donné la capacité et la bénédiction de créer des mots pour transmettre un message. Il faut l'utiliser. Mais Dieu veut nous libérer pour briser ce silence et pouvoir parler. Parler de ce qui nous arrive. Il faut briser le silence. Dieu vient à notre rencontre, Dieu veut nous libérer, mais Dieu veut te restaurer. Quand on brise le silence, c'est parce que nous avons compris que la grâce de Dieu est nécessaire pour notre transformation, pour notre bien. Et cela implique qu'on doit laisser Dieu agir dans nos vies à travers sa parole, à travers l'intervention de son Saint-Esprit. Dieu nous invite, écoutez bien, je vais le dire avec beaucoup d'amour, à ne pas être têtus. Sinon, à nous confier de l'Éternel. De le même psaume 32, la deuxième partie. Je t'instruirai, c'est Dieu qui parle, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quelque chose de continuel. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet et sans intelligence, ou têtu. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de quoi? De sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits du cœur. Dieu est présent avec nous, mais Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous transformer à son image. Il y a beaucoup de passages qui peuvent nous donner cette image comme un potier qui fait ce qu'il veut avec la matière. Mais cette restauration comporte des conditions pour qu'elle soit efficace. Et une d'entre elles, c'est être disposé de se laisser porter par Dieu lui-même et cheminer avec lui. Dieu veut que nous vivions le silence, car cela reflète que je veux lui donner toute la place qu'il mérite dans ma vie. Dieu veut nous restaurer, il va utiliser aussi des personnes pour le faire. Dieu nous a laissé sa parole, dans laquelle on trouve toute la vérité et rien que la vérité. Mais Dieu va utiliser des personnes qui sont compétentes, qui ont le cœur pour le faire cela, pour nous aider à cette transformation. En tant qu'exemple, simplement, récemment, j'ai parlé avec un homme que son père vient de décéder, ça fait quelques mois. Et la douleur, le deuil, l'incompréhension qui arrive tout d'un coup est bien réelle. Et quand je parlais avec lui, je voyais aussi, de mon côté, mon père aussi a excédé. Ça fait plus de 15 ans déjà. Mais j'ai vu comme Dieu m'a restauré. Comme j'ai vu passer par cette deuil, moment difficile de ne pas croire. Mais vraiment, mon père est décédé. Mon papa, je ne peux plus l'appeler par Zoom, on fait un Zoom, on l'appeler par téléphone pour dire j'ai besoin d'un conseil. Il n'y a pas un téléphone divin. On l'aimait bien. Mais il n'y a pas un téléphone divin. Et Dieu dit, je suis ton père. Je suis ton père. Je ne vais pas te délaisser. Mais ces mots-là, ils n'ont pas eu d'impact dans ma vie tant que je n'ai pas dit, Seigneur, j'oublie ce silence, je suis en deuil, j'ai besoin de toi. Jusqu'au moment où j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus, je suis vulnérable. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et on pleurait ensemble avec cet homme-là. Pourquoi? Parce que c'est normal, il nous manque. Mais Dieu vient avec sa main, avec un baume, pour nous dire, je suis avec toi. Et Dieu veut que cette douleur ne soit pas quelque chose qui nous freine pour lui servir. Mais qu'on passe avec lui ce temps en brisant ce silence. Dieu veut nous restaurer, briser le silence. Personne ne juge. Personne ne juge. Les seuls justes juges, et 2 Timothée 4, verset 8, les seuls justes juges, c'est Dieu. Romains chapitre 14 et 15, et 13 et 14, pardon, nous parlent qu'on doit être, et on doit faire attention de ne pas juger les autres. Parce que le seul qui a le droit de juger, c'est Dieu. Parce que moi aussi, je suis un pécheur. Sa grâce seule est celle qui compte. Sa grâce seule est celle qui compte. On arrive à la fin de notre temps ensemble, mais avant de terminer, je ne pourrais pas briser le silence si ce n'était pas parce que je suis revêtu de la grâce et de la justice du Seigneur. Ce que vous voyez, c'est Jésus, le travail qu'il a fait. C'est par sa grâce et son pardon, car ma justice est loin d'être parfaite. Le seul qui me tient, qui nous tient debout, c'est Christ. C'est Christ.